De grès et de genévrier, tandis que de l'autre, le terrain presque nu s'incline vers le creux du vallon où, dans la couleur des bruyères, un sentier fait une ligne pâle. Et on aperçoit tout au loin un sommet en cône aplati avec la tour d'un télégraphe par derrière. Une demi-heure après, ils mirent pied à terre encore une fois pour gravir les hauteurs d'Apremont. Le chemin faisait des zigzags entre les pins trapus, sous des rochers à profil anguleux. Tout ce coin de la forêt a quelque chose d'étouffé, d'un peu sauvage et de recueilli. On pense aux ermites, compagnons des grands cerfs portant une croix de feu entre leurs cornes, et qui recevaient avec de paternels sourires les bons rois de France, agenouillés devant leurs grottes. Une odeur résineuse emplissait l'air chaud, des racines à ras du sol s'entrecroisaient comme des veines. Rosanette trébuchait dessus, était désespérée, avait envie de pleurer. Mais tout en haut, la joie lui revint, en trouvant sous un toit de branchage une manière de cabaret où l'on vend des bois sculptés. Elle but une bouteille de limonade, s'acheta un bâton de houx, et sans donner un coup d'œil au paysage que l'on découvre du plateau, elle entra dans la caverne des brigands, précédée d'un gamin portant une torche. Leur voiture les attendait dans le bas-bréau. Un peintre en blouse bleue travaillait au pied d'un chêne, avec sa boîte à couleurs sur les genoux. Il leva la tête et les regarda passer. Au milieu de la côte de Chailly, un nuage crevant tout à coup leur fit rabattre la capote. Presque aussitôt la pluie s'arrêta, et les pavés des rues brillaient sous le soleil quand ils rentrèrent dans la ville. Des voyageurs, arrivés nouvellement, leur apprirent qu'une bataille épouvantable ensanglantait Paris. Rosanette et son amant n'en furent pas surpris. Puis tout le monde s'en alla, l'hôtel redevint paisible, le gaz s'éteignit, et ils s'endormirent au murmure du jet d'eau dans la cour. Le lendemain, ils allèrent voir la gorge au loup, la mare aux fées, le long rocher, la marlotte. Le surlendemain, ils recommencèrent au hasard, comme leur cocher voulait, sans demander où ils étaient, et souvent même négligeant les sites fameux. Ils se trouvaient si bien dans leur vieux landau, bas comme un sofa et couvert d'une toile à raies déteintes. Les fossés pleins de broussailles filaient sous leurs yeux, avec un mouvement doux et continu. Des rayons blancs traversaient comme des flèches les hautes fougères. Quelquefois, un chemin, qui ne servait plus, se présentait devant eux en ligne droite, et des herbes s'y dressaient çà et là, mollement. Au centre des carrefours, une croix étendait ses quatre bras. Ailleurs, des poteaux se penchaient comme des arbres morts, et de petits sentiers courbes, en se perdant sous les feuilles, donnaient envie de les suivre. Au même moment, le cheval tournait, ils y entraient, on enfonçait dans la boue. Plus loin, de la mousse avait poussé au bord des ornières profondes. Ils se croyaient loin des autres, bien seuls, mais tout à coup passait un garde-chasse avec son fusil ou une bande de femmes en haillons traînant sur leur dos de longues bourrées. Quand la voiture s'arrêtait, il se faisait un silence universel. Seulement on entendait le souffle du cheval dans les brancards avec un cri d'oiseau très faible, répété. La lumière, à de certaines places éclairant la lisière du bois, laissait les fonds dans l'ombre, ou bien, atténuée sur les premiers plans par une sorte de crépuscule, elle étalait dans les lointains des vapeurs violettes, une clarté blanche. Au milieu du jour, le soleil, tombant d'aplomb sur les larges verdures, les éclaboussait, suspendait des gouttes argentines à la pointe des branches, rayait le gazon de traînées d'émeraudes, jetait des taches d'or sur les couches de feuilles mortes. En se renversant la tête, on apercevait le ciel entre les cimes des arbres. Quelques-uns, d'une altitude démesurée, avaient des airs de patriarches et d'empereurs, ou, se touchant par le bout, formaient avec leurs longs fûts comme des arcs de triomphe. D'autres, poussés de le bas obliquement, semblaient des colonnes près de tomber. Cette foule de grosses lignes verticales s'entr'ouvrait. Alors, d'énormes flots verts se déroulaient en bosselages inégaux jusqu'à la surface des vallées où s'avançait la croupe d'autres collines dominant des plaines blondes qui finissaient par se perdre dans une pâleur indécise. Debout, l'un près de l'autre, sur quelque éminence du terrain, ils sentaient, tout en humant le vent, leur entrer dans l'âme comme l'orgueil d'une vie plus libre, avec une surabondance de force, une joie sans cause. La diversité des arbres faisait un spectacle changeant. Les hêtres, à l'écorce blanche et lisse, entremêlaient leurs couronnes. Des frênes courbaient mollement leurs glauques ramures. Dans les cépés de charme, des houx pareils à du bronze se hérissaient. Puis venait une file de minces bouleaux, inclinés dans des attitudes élégiaques, et les pins, symétriques comme des tuyaux d'orgue, en se balançant continuellement, semblait chanter. Il y avait des chênes rugueux énormes qui se convulsaient, s'étiraient du sol, s'étreignaient les uns les autres, et fermes sur leurs troncs, pareils à des torses, se lançaient avec leurs bras nus des appels de désespoir, des menaces furibondes, comme un groupe de titans immobilisés dans leur colère. Quelque chose de plus lourd, une langueur fiévreuse planait au-dessus des mares, découpant la nappe de leurs eaux entre des buissons d'épines. Les lichens de leurs berges, où les loups viennent boire, sont couleur de soufre, brûlés comme par le pas des sorcières. Et le coassement ininterrompu des grenouilles répond aux cris des corneilles qui tournoient. Ensuite, ils traversaient des clairières monotones, plantées d'un baliveau çà et là. Un bruit de fer, des coups de rue et nombreux sonnaient. C'était au flanc d'une colline, une compagnie de carriers battant les roches. Elles se multipliaient de plus en plus et finissaient par remplir tout le paysage, cubiques comme des maisons, plates comme des dalles, s'étayant, se surplombant, se confondant, telles que les ruines méconnaissables et monstrueuses de quelques cités disparues. Mais la furie même de leur chaos faisait plutôt rêver à des volcans, à des déluges, aux grands cataclysmes ignorés. Frédéric disait qu'elles étaient là depuis le commencement du monde et resteraient ainsi jusqu'à la fin. Rosanette détournait la tête en affirmant que ça la rendrait folle et s'en allait cueillir des bruyères. Leurs petites fleurs violettes, tassées les unes près des autres, formaient des plaques inégales et la terre qui s'écroulait de dessous mettait comme des franges noires au bord des sables pailletés de mica. Ils arrivèrent un jour à mi-hauteur d'une colline tout en sable. Sa surface, vierge de pas, était rayée en ondulations symétriques, çà et là, tels que des promontoires sous le lit desséché d'un océan, se levaient des roches ayant de vagues formes d'animaux, tortues avançant la tête, phoques qui rampent, hippopotames et ours. Personne, aucun bruit. Les sables, frappés par le soleil, éblouissaient, et tout à coup, dans cette vibration de la lumière, les bêtes parurent remuées. Ils s'en retournèrent vite, fuyant le vertige, presque effrayés. Le sérieux de la forêt les gagnait. Ils avaient des heures de silence où, se laissant aller au bercement des ressorts, ils demeuraient comme engourdis dans une ivresse tranquille. Le bras sous la taille, ils l'écoutaient parler pendant que les oiseaux gazouillaient, observaient presque du même coup d'œil les raisins noirs de sa capote et les baies des genévriers, les draperies de son voile, les volutes des nuages. Et quand ils se penchaient vers elle, la fraîcheur de sa peau se mêlait au grand parfum des bois. Ils s'amusaient de tout, ils se montraient, comme une curiosité, des fils de la Vierge suspendus au buisson, des trous pleins d'eau au milieu des pierres, un écureuil sur les branches, le vol de deux papillons qui les suivaient, ou bien, à 20 pas d'eux, sous les arbres, une biche marchait, tranquillement,